Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Dans le cadre d'éclairage, nous recevons aujourd'hui le lieutenant-colonel Michel Goya du Centre de Doctrine d'Emploi des Forces, le CDEF, et qui est également officier qu'on appelle retour d'expérience pour la zone Asie et Moyen-Orient. Le colonel Michel Goya est également historien. Il a écrit un ouvrage tout à fait remarquable sur la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il se propose de nous faire réfléchir à la pensée militaire française. Colonel, la pensée militaire, c'est différent de la culture militaire.
Tout à fait, professeur. La culture militaire, ça vient d'un peu du fond des âges. C'est un ensemble de normes, de valeurs qui encadre plus ou moins consciemment la pratique. Alors que la pensée militaire, c'est au contraire une intellectualisation, une explicitation de cette même pratique. Pour reprendre une métaphore psychanalytique, je dirais que la culture, c'est un petit peu l'inconscient et le surmoi, alors que la pensée militaire, c'est un petit peu le moi, c'est-à-dire que c'est le guide de l'action. Donc cette pensée militaire, elle peut être soit un état de l'art, c'est-à-dire une synthèse de ce qui se fait, de ce qui se fait de bien, ou au contraire une réflexion à partir de laquelle va se développer une pratique nouvelle. Bon, dans les faits, il s'agit presque toujours d'un mélange des deux. Alors, il faut bien comprendre, pour commencer, qu'une armée, c'est un ensemble de compétences, c'est un répertoire de savoir-faire individuel ou collectif, comme manier une épée, marcher ensemble au son du canon, au son du tambour plutôt, charger à cheval, combiner un tir d'artillerie, un assaut. La très très grande majorité de ces compétences, de ces savoir-faire, sont implicites, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits dans les gestes et dans les cerveaux. Et ils s'acquièrent plutôt par l'imitation des autres. Alors, lorsque cet ensemble de compétences, ce répertoire de savoir-faire suffit pour résoudre les problèmes tactiques, il n'y a aucune raison d'en changer, parce qu'il n'y a aucune incitation à changer ce qui fonctionne bien. En revanche, lorsque ces compétences sont inopérantes, après un désastre militaire en général, survient alors la nécessité de passer par une phase de réflexion et de débat, donc une phase explicite, afin de définir ce qui est nécessaire de savoir pour vaincre, de définir une doctrine. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la pensée militaire pour résoudre ces problèmes.
Je crois que l'émergence de la pensée militaire moderne commence au XVIIIe siècle, pratiquement au moment où la société française change énormément et où il y a probablement une disjonction à la fois de pensée et de mœurs entre l'aristocratie qui avait l'apanage de la défense jusqu'à la Révolution française et le reste de la population.
Oui, alors il faut revenir un petit peu aux sources, revenir à la naissance de la France, c'est-à-dire aux alentours de l'an 1000, dans le bas Moyen-Âge, à une époque où le roi est faible et la noblesse puissante. Et je pense que la culture militaire, puis la pensée militaire française, vont naître de cette dialectique entre ces deux puissances, entre les valeurs du corps des officiers et celles du pouvoir central. Alors, au début, dans ce bas Moyen-Âge, on se bat essentiellement à cheval, de manière individualiste, à la recherche de la prouesse. L'art de la guerre, c'est relativement simple, il est fait de choc et de fougue. Et la cavalerie, l'arme de la classe aristocratique, est l'arme principale, sinon l'arme exclusive. Et l'infanterie, arme du peuple, est au contraire plutôt méprisée. Alors ce modèle, que je pourrais qualifier d'aristocentré, se brise dès le début de la guerre de Cent Ans sur une armée anglaise issue d'un pays où, à l'inverse, le roi est fort et la noblesse plutôt maîtrisée, contrôlée par le pouvoir central. Donc ce roi anglais a pu former une armée de conscription à base d'infanterie, mais face à la cavalerie française de l'époque, qui est une arme de choc, cette infanterie ne peut être que défensive. C'est d'ailleurs là la naissance du style anglais qui est fait de résistance et de ténacité.
Oui, et qui a fait ses preuves.
Tout à fait. Alors, il suffit de rappeler des batailles comme Crécy, Azincourt ou Poitiers, où la chevalerie française est massacrée par les archers anglais. Et cet échec de la chevalerie a pour conséquence finalement d'accroître le pouvoir du roi de France, qui, de son côté, cherche à créer sa propre armée nationale. Il échoue dans une tentative de créer une infanterie à l'imitation des Anglais, donc c'est ce qu'on appelait les francs archers sous Charles VII, mais comme il dispose d'argent, tout simplement, il peut investir dans d'autres voies. Il investit dans les armes savantes, qui sont la fortification et l'artillerie, artillerie française, qui devient très rapidement la plus importante du monde.
Oui. Des armes savantes et coûteuses aussi, également.
Tout à fait, tout à fait. Donc le roi de France est peut-être le seul à cette époque à pouvoir se payer ces armes coûteuses. Et donc l'art de la guerre en France va finalement osciller entre cette cavalerie, cette audace des cavaliers, ce choc, et la guerre savante. Et entre les deux, l'infanterie française a finalement un peu de mal à trouver une place. Et jusqu'à la Révolution française, jusqu'aux années 1790, elle reste inférieure aux autres infanteries d'Europe. Une évolution majeure est constituée par l'accroissement numérique des forces au XVIIe siècle, avec le règne de Louis XIV. Accroissement numérique proportionnel à la richesse du roi, tout simplement. Mais l'armée de Louis XIV atteint finalement 400 000 hommes, ce qui est considérable pour l'époque. C'est en proportion, c'est comme s'il y avait une armée de 1 200 000 hommes maintenant. Mais par délégation, c'est encore l'aristocratie qui fournit l'encadrement de toutes ces masses. Et donc cette aristocratie diffuse ses propres valeurs. Alors, pour parler de la pensée militaire, on voit une première ébauche de véritable pensée militaire à la Renaissance, sous deux influences, l'influence de l'imprimerie et l'influence aussi de l'éducation de la noblesse qui apprend à lire, tout simplement, avec un rôle prépondérant des jésuites dans cet apprentissage. Mais pour l'aristocratie, l'apprentissage, c'est d'abord une éducation qui s'apprend à l'intérieur de sa classe, à l'imitation, et à l'imitation des hommes illustres qui n'hésitent plus à écrire leurs mémoires, comme des gens comme Blaise de Montluc, par exemple. De la même façon, on découvre également, au moment de la Renaissance, les auteurs classiques comme Machiavel. Donc ça, c'est une première ébauche. Une deuxième ébauche de pensée militaire vient au contraire du roi, du pouvoir central. Et elle naît du problème de la gestion des armées énormes que j'évoquais tout à l'heure. Et on commence à écrire des règlements. Alors, c'est des règlements qu'on pourrait qualifier actuellement de technocratiques, qui servent juste au début à gérer les mouvements des armées, leur ravitaillement, ce qu'on appelle les étapes. Mais peu à peu, ces textes tentent de s'immiscer dans l'ordonnancement sur le champ de bataille et la tactique pure, ce qui provoque des réticences, de très fortes réticences, c'est le moins qu'on puisse dire, de la part du corps des officiers qui est jaloux de son expertise. Alors, une littérature purement tactique, finalement, n'apparaît que très tardivement, et elle provient d'un choc. Donc, la nécessité, comme je disais tout à l'heure, après un choc, d'une phase explicite, et ce choc, c'est la guerre de 7 ans.
La guerre de 7 ans.
Voilà, de 1757 à 1763, contre le roi de Prusse, qui est un échec complet pour les armées françaises. Et on voit apparaître à ce moment-là, en parallèle avec le siècle, le mouvement des Lumières, on voit apparaître des gens comme le chevalier de Folard, le comte de Guibert, les frères Dutheil, Bourset, Gribeauval, toute une génération d'intellectuels militaires qui cherchent à renouveler la doctrine française.
Est-ce que l'activité militaire n'est pas, à ce moment-là, un peu à la recherche de son environnement général, sans très bien savoir ce que doit être cet environnement? Est-ce que la période de la Révolution et de l'Empire ne va pas lui faire découvrir l'environnement dont elle a besoin?
Alors, le faire découvrir, elle va changer considérablement cet environnement, comme pour le reste de la société française. Et il se crée à cette occasion une sorte de conjonction des planètes assez étonnante entre effectivement ce mouvement intellectuel des Lumières qui a provoquer un certain nombre d'innovations, puis la Révolution française qui apporte les masses humaines par la conscription, qui apporte la motivation, qui apporte un changement, un renouvellement complet du corps des officiers par sa démocratisation. Et le dernier élément, finalement, c'est le génie personnel de Napoléon qui fait de cet ensemble un outil militaire de premier ordre qui amène l'art militaire français à son sommet. Alors, cette conjonction des planètes, comme toutes les conjonctions des planètes, n'a qu'un temps. Et après la période napoléonienne, par une sorte de retour de balancier, La période qui suit, donc celle de la Restauration, celle du Second Empire, est une sorte de désert intellectuel militaire. C'est l'époque où le général de MacMahon raye de l'avancement tout officier qui a son nom sur un livre. C'est également le retour à une armée aristocratique qui, en plus, a essentiellement une fonction répressive et expéditionnaire, en Afrique du Nord en particulier, puis au Mexique. Cette armée, finalement, explose en 1870 dans une confrontation avec l'armée prussienne qui, elle, a pris le temps de réfléchir, a pris le temps de se constituer un corpus doctrinal solide et qui a créé une classe d'intellectuels militaires. Alors, ce choc, comme au XVIIIe siècle, est l'occasion d'un renouveau intellectuel qui est lié, comme au XVIIIe siècle également, au bouillonnement scientifique de l'époque. Et là, en l'occurrence, c'est la grande période du positivisme. Cette pensée très riche est cependant pervertie par un certain nombre de biais. La première, c'est que le corps des officiers, contrairement à la période révolutionnaire, ne se modifie qu'assez peu. Il reste de conception aristocratique, avec une noblesse qui est désormais issue plutôt de la bourgeoisie et qui a plutôt tendance à reprendre les valeurs de l'aristocratie. C'est la période où une noblesse de concours républicain, remplace en quelque sorte la noblesse de sang. Alors, ce corps des intellectuels militaires, de ce fait, devient très vite monoculturel, très orienté sur les sciences humaines, très pratiquement constitué à partir de l'étage de l'école de guerre par des Saint-Cyriens fantassins, ce qui oriente complètement la pensée dans un sens unique, au détriment de tous les autres. Les évolutions techniques ou économiques qui sont considérables à l'époque, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, sont ainsi largement sous-estimées. Et cette armée, finalement, échoue en partie en août 14. Le début de la guerre et l'apparition des tranchées en 1915 sont l'occasion de nouveaux chocs et qui amènent donc à une transformation, une nouvelle transformation sur le tas de la pratique, laissant d'ailleurs un petit goût amer dans l'après-guerre et un gros doute sur la capacité de ce corps des officiers d'actifs à penser et à anticiper la guerre. Alors, l'entre-deux-guerres voit à nouveau une sorte d'affaiblissement de la pensée militaire pour plusieurs raisons. D'abord, du fait des certitudes acquises au lendemain de la victoire, et également de retour à une forme de centralisation. Les années 30, c'est la période où le général Gamelin, donc chef d'état-major des armées, impose son autorisation préalable à toute publication de livres, ce qui fige complètement la pensée.
Est-ce qu'il n'y a pas une très grande différence d'évolution, par exemple, face à l'armée prussienne qui deviendra l'armée allemande à terre ? On a l'impression que la pensée militaire de culture germanique a une évolution constante, peut-être parce qu'elle a été initiée par des chefs d'État qui étaient aussi des chefs militaires ou qui du moins avaient l'ambition de l'être. Donc il y a eu une très grande continuité pendant le 19e et le début du 20e siècle. Alors qu'en France, on a l'impression qu'il y a des oscillations, c'est-à-dire des périodes de grand prestige militaire. Ensuite, le pouvoir civil se méfie, donc il met les militaires au placard. Et puis ensuite, devant l'affaiblissement des civils ou leur échec, il y a de nouveau une ascension militaire. Donc on a l'impression qu'en France, on a évolué par oscillations et vagues successives, alors que dans les pays de culture germanique, il y a une évolution beaucoup plus constante.
Oui, tout à fait. Bon, c'est un phénomène que l'on constate dans d'autres aspects de la société française. La France a connu 16 régimes politiques différents depuis 1789, là où la Grande-Bretagne n'en a connu qu'un seul. Donc la France évolue souvent par crise, et l'armée française, reflet de la société, évolue également très souvent par crise. Alors pour reprendre l'exemple de la période qui va de 1871 à 1914, effectivement, on sent qu'il y a un renouveau de la pensée militaire française, il y a un bouillonnement, mais à l'imitation des Prussiens ou des Allemands. Mais la différence, c'est qu'en Allemagne, on a cette pensée est dirigée par un grand état-major qui a pignon sur rue, dont on ne se méfie pas, alors qu'en France, dans la Troisième République naissante, on se méfie énormément d'un pouvoir militaire qui serait trop puissant, qui amènerait un nouveau 18 Brumaire et un nouveau Bonaparte. Donc on crée une élite intellectuelle, mais on se dépêche de la fractionner, C'est-à-dire qu'on sépare, par exemple, le chef d'état-major de l'armée, qui gère les affaires courantes, en quelque sorte, et le généralissime, celui qui est destiné à commander les armées en temps de guerre, sont séparés. Ce ne sont pas les mêmes personnes.
C'est pas très opérationnel, ça.
Ça dépend de quel point de vue on se place. On considère, dans la Troisième République, on considère que c'est le ministre de la Défense, enfin le ministre de la Guerre, pardon, à l'époque, qui doit être à la tête de l'armée. Le problème, c'est que dans la Troisième République, il y a 43 ministres durant cette période. Il y en a pratiquement un par armée. Donc on a un pouvoir, on a un haut commandement qui est en quelque sorte tricéphale, ce qui amène évidemment une incohérence. Ce qui ajoute à l'incohérence dans la pensée militaire française, qui donc va de pôle doctrinal en pôle doctrinal.
Et l'incohérence amène l'inertie, forcément, et une difficulté à évoluer, probablement.
Oui, alors, je ne dirais pas que c'est l'inertie, au contraire, on assiste plutôt à un foisonnement, mais ça aboutit plutôt à une sorte de mosaïque doctrinale, des idées qui se contredisent, qui sont issues de chapelles différentes, de l'école de guerre, de l'état-major... de certaines écoles, de certains généraux, et qui finalement aboutissent à, non pas à une doctrine unique, mais à plusieurs idées générales, c'est un peu suivant chacun. On retrouve peut-être là la conception aristocratique de l'armée, c'est-à-dire que chaque général se sent lié plus par des notions de devoir, des notions de morale très fortes, plutôt que par des textes d'ailleurs doctrinaux que finalement personne ne lit complètement.
Il y a probablement un nouveau choc en 1940.
Bien sûr, c'est un choc terrible, peut-être le plus terrible de tous. L'armée française est une armée qui a subi au cours de ces 100 dernières années beaucoup de traumatismes. Et ce choc amène à son tour amène une explosion de l'armée française et qui éclate en plusieurs armées françaises. Il y a l'armée d'Afrique, l'armée de la France libre, l'armée de Vichy... Et qui amène une nouvelle démocratisation et un renouveau, effectivement, de la pensée, de la pratique dans l'après-guerre autour de deux thèmes nouveaux, la guerre atomique et la guerre révolutionnaire. La guerre d'Algérie détruit cette guerre révolutionnaire, donc elle la raye complètement de toute la pensée militaire française. Il ne reste plus que la doctrine nucléaire. Et là, on revient un petit peu à cette notion d'officier et cette notion de roi. La doctrine nucléaire, c'est la doctrine du roi, c'est la doctrine savante. Elle a pour effet pervers, finalement, de geler un petit peu toute réflexion tactique, puisque tout est subordonné, finalement, au feu nucléaire déclenché par le président de la République. Alors, la fin de la guerre froide, depuis le début des années 90, un nouveau modèle d'armée professionnelle, des défis multiples, finalement, imposent, c'est une sorte de choc beaucoup plus lent, beaucoup moins douloureux, mais qui impose à nouveau un retour du débat et de la pensée, un retour à une phase d'explicitation et une phase de bouillonnement intellectuel.
Nous avons vécu récemment une nouvelle étape qui est la professionnalisation générale de l'armée, puisque l'air et la mer étaient déjà très professionnels. Maintenant, c'est l'armée de terre qui est maintenant complètement professionnalisée. Donc, on est revenu à une espèce d'aristocratie, je dirais, technologique militaire, puisque la défense, c'est maintenant un art très scientifique, très technique. Comment pensez-vous que nous allons évoluer maintenant ?
Oula, c'est une question très difficile. Cette professionnalisation, d'ailleurs, amène certains traits communs avec la guerre des Lumières ou la guerre en dentelle, comme on l'appelait à l'époque. Effectivement, comme au XVIIIe siècle, on se retrouve avec des armées professionnelles, avec des gens qui sont chers, tout simplement, très, très prosaïquement, que l'on ne gaspille pas. Et également, il y a des considérations morales qui sont très proches de celles du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est l'époque où le roi Louis XV déclarait au dauphin « Le sang de l'ennemi, c'est le sang des hommes. Et le véritable honneur, c'est de l'épargner aussi. » Donc, toute considération qu'on retrouve après toute cette période de guerre qu'on peut qualifier d'idéologique, de nationaliste et idéologique, et qui partent de la Révolution française à la fin de la guerre froide, on se retrouve peut-être... Ça a été la tentation un certain temps. On retrouve dans le cadre d'une politique internationale faite de guerre limitée, de concert des nations. On retrouve un rôle qui est assez proche finalement de celui du XVIIIe siècle. Le problème, c'est que cette phase à laquelle on a cru un certain temps, avec la notion de nouvel ordre mondial, a un petit peu a évolué, comme on le sait, depuis quelques années. Et les armées du XVIIIe siècle, finalement, ont été balayées. Les armées prussiennes, par exemple, ont été balayées par les armées de la Révolution. C'est-à-dire les armées avec une forte motivation idéologique. Et la question que l'on peut se poser, c'est si nos armées professionnelles modernes, très souples, capables de faire plein de choses, de s'adapter à des équipements nouveaux, mais surtout capables de s'adapter à des milieux très différents, très rapidement, ne sont pas en position de vulnérabilité face à de nouvelles forces idéologiques. Et le cas de l'Irak est assez éclairant à ce sujet, puisqu'on a une armée professionnelle de très haute technologie, très compétente, mais qui, du fait de sa professionnalisation, du fait de sa haute technologie, justement, est peu nombreuse et a les plus grandes difficultés face à un ennemi qui est fanatisé, qui pratique le terrorisme, qui a des ressources humaines quasiment inépuisables. Donc là, oui, on bute peut-être sur les limites de ce modèle, ce qui a induit là aussi la nécessité d'une profonde réflexion.
D'une réflexion très importante et comme nous l'avions dit une fois lors d'une conférence qui avait eu lieu à l'école militaire, quelquefois un type avec un couteau et une boîte d'allumettes peut faire beaucoup plus de mal que toute une armée équipée d'ordinateurs.
Tout à fait, ça c'est un des problèmes, bon, c'est pas nouveau, c'est le problème de la guérilla. Avec un cutter, vous pouvez détruire la Joconde, alors qu'il serait extrêmement difficile de la reconstituer. Donc là, il y a une asymétrie finalement de ressources au profit de tous ces mouvements terroristes et de guérilla, c'est évident.
Colonel Goyan, vous nous avez fait retourner dans des périodes historiques fort lointaines et puis aussi vous nous avez fait faire un voyage dans la modernité. Nous vous en remercions. Nous rappelons que vous avez écrit un très remarquable ouvrage signé Michel Goya sur la Première Guerre mondiale et nous vous remercions beaucoup de cet éclairage.
Merci.